Variation en noir. Roman noir sur Radio PFM. Et littérature policière au pluriel. Variation en noir dans Variation, le dernier vendredi du mois. Guy Le Polarski au micro, vous écoutez Radio PFM et vous avez rendez-vous avec les littératures policières. Variation en noir, c'est une émission réalisée en collaboration avec 813, l'association des amis des littératures policières, et en particulier avec son président Hervé Delouche, qui est avec nous au téléphone depuis la capitale. Hervé, bonjour.
Bonjour Guy.
Alors au sommaire de ce Variation en noir du mois de mai 2016, retour tout d'abord sur le goéland masqué et puis gros plan sur le dernier numéro, c'est le 124, dernier numéro de la revue 813, un numéro tout chaud qui consacre son dossier aux 30 ans de Rivage Noir. Masqué, Hervé, 813 participait à ce festival, c'était 13 et 16 mai dernier, et donc tu y étais, Hervé, pour notamment rencontrer Eric Miles Williamson, mais il y a eu un petit contretemps.
Alors oui, j'étais au goéland masqué pour la troisième année consécutive, là-bas, tout au bout du Finistère Sud, en pays Bigoudin, voilà. Et Eric Miles Williamson était un invité très attendu, et puis et au dernier moment il n'a pas pu prendre son avion, il a fallu faire sans Eric Miles Williamson, mais nous avons parlé de lui.
Hervé, on va en parler, oui, aussi un petit peu. Un petit, oui, mot sur ce festival un peu particulier, parce que bon, c'est quand même, tu l'as dit, tout au bout de la Bretagne. En plus, ça se déroule le week-end de la Pentecôte, en même temps que, si je ne dis pas de bêtises, le
Saint-Malo, les États-Unis.
Voilà, le gros, oui, rendez-vous, hein, de week-end littéraire, de week-end de Pentecôte. Mais bon, un festival qui se porte bien avec le tour du polar, du noir, avec des habitués, puis des invités aussi assez importants.
C'est un festival tout à fait important. Comme tu le dis, côté auteur, il y a des habitués comme Jean-Bernard Pouy, comme Marc Villard, Gilles Delpapas, Nadine Monfils. Et puis, il y a toujours des auteurs intéressants, des auteurs internationaux. Il y avait Carlos Salem, il y avait Somoza, Zanon, l'Italien Francesco De Filippo, le Nigérian qui vient de publier un livre chez Métellier, Leye Adenle.
Oui.
Il y avait aussi l'écrivain anglo-soudanais Parker Bilal, qui a publié deux romans au Seuil, très intéressants, les Écailles d'or et Meurtre rituel à Imbala. Et puis une série d'auteurs français, dont Marin Ledin, que nous connaissons bien, et d'autres, Dominique Delahaye, Sergueï Dounovets, etc., qui venaient aussi parce qu'il y avait une thématique, comme à chaque fois, qui là était une thématique un peu originale, qui était rock et polar, et donc il y a eu une série d'animations et de rencontres littéraires et polars qui parlaient du rock et des liens qu'il y avait entre ces deux cultures, disons. Et à côté de cela, il y avait chaque soir un concert de rock différent pour être au diapason. Ce qui est une autre, ce qui est une force, une originalité de ce festival, c'est que il y a un, à Pamar même, à Penmarc, comme on veut, il y a un salon, et puis il y a des activités dans les ports du coin, à Saint-Guénolé, à Loctudie, etc. Et tout ça dans une ambiance extrêmement chaleureuse, avec une équipe formidable, menée par Roger Elias, une équipe de bénévoles. Et c'est quand même la 16e édition de ce festival qui petit à petit a pris de l'ampleur et puis voilà, et dans laquelle 813 est désormais impliqué.
Donc ça donne envie. Alors revenons à Eric Miles Williamson. Donc quand j'ai su que tu participais à ce festival et que tu devais, si mes souvenirs sont bons, animer une table ronde avec Eric Miles Williamson, alors là je me suis dit bon à l'issue de cette rencontre, eh bien on en parle, parce que bon, enfin pour moi c'est quelqu'un, Eric Miles Williamson, d'important hein, dans la littérature noire, néo-noire. Hein, donc lui, il qualifie cette littérature de méta-réalisme. On y reviendra peut-être peu. Et alors donc, bon, son absence, je pense que a dû être regrettée par beaucoup de personnes, mais vous en avez parlé quand même, tu dis, Hervé.
Oui, on en a parlé la rencontre était prévue dans un bar de Saint-Guénolé le dimanche à midi. La salle était pleine, il y avait 70 personnes, un truc comme ça, et ben comme il n'était pas là, on était avec celui qui a été son éditeur et qui est également écrivain, qui est Patrick Reynal, qui l'avait découvert et qui l'avait publié d'abord à La Noire au début des années 2000,
ouais, 2003.
Voilà, c'est ça, avec Gris Auckland, et puis qui a continué à le publier quand Reynal a quitté la Noire et la série Noire pour aller diriger Fayard Noir, où il a publié Noir Béton et le dernier qui était Bienvenue à Auckland, qu'on peut trouver en Point Seuil maintenant. Eric Miles Williamson, tu as déjà dit un peu, mais moi quand je l'ai découvert, c'est un écrivain, c'était avec Gris Auckland, c'est un écrivain absolument qui ne peut pas laisser indifférent d'abord. Il y avait ce côté d'abord de parler d'Auckland, ce qui est particulièrement intéressant parce que c'est, si je ne m'abuse, c'est exactement le miroir inversé de... C'est San Francisco, c'est ça ?
Oui.
C'est l'envers du rêve américain complet, c'est-à-dire que...
C'est en face de San Francisco, donc...
C'est en face de San Francisco, et c'est les ghettos, c'est la crise, c'est ce qu'a laissé la crise industrielle, c'est des prolétaires, des déclassés, des laissés pour compte. Et alors, il met en scène, dans Gris Auckland, et on le retrouve dans Bienvenue à Auckland, il met en scène un jeune gars, T-Bird Murphy, dont le père sort de tôle et et qui vit chez sa mère, qui héberge aussi un gang de Hells Angels, c'est-à-dire pas des gentils motards de tourpeau, quoi, voilà. Et par ailleurs, il y a le style d'Eric Miles Williamson qui est très rude, qui est très très fort. Et puis c'est quelqu'un qui, quand je dis il laisse pas indifférent, c'est-à-dire qu'il accroche le lecteur, parfois d'ailleurs il l'interpelle, il s'en prend à lui, l'homme est assez, je crois, violent, et le style est violent également, et en même temps, c'est de la littérature coup de poing, c'est costaud, ça raconte plein de choses... absolument passionnante, et je trouve que Eric Miles Williamson, on en parlait justement avec Reynal, il est dans cette lignée de cet écrivain que la bonne société littéraire américaine appelait d'une manière méprisante les muckrakers, c'est-à-dire les racleurs de boue en français, et dans laquelle on classait à l'époque successivement John Steinbeck et puis Nelson Algren, voilà.
Ouais, donc on peut ajouter qu'il y a aussi de la part de cet auteur une réflexion sur sa propre littérature et la littérature en général. Donc c'est lui qui a trouvé la formule méta-réalisme en expliquant que bon, les auteurs impliqués dans ce mouvement écrivent quelque chose qui semble au premier abord être une forme de réalisme, c'est vrai, mais elle n'en est pas, hein, puisque bon, alors là je lis un extrait d'un texte qu'on trouve dans un livre, ça s'appelle Le Livre des Fêlures, hein, 31 histoires cousues de fil noir, c'était chez 13e Note et Édition, qui n'existe malheureusement plus, qui recensait un petit peu donc les courants littéraires un petit peu alternatifs, underground américain, néo-beat, métaréliste, off noir, inside out, un bouquin très intéressant. Et donc Eric Miles Williamson explique en fin de compte que contrairement aux réalistes d'il y a un siècle, dont le style de prose était secondaire par rapport à leur récit didactique, les méta-réalistes américains mettent le style à l'avant de leur œuvre. Donc c'est quelque chose d'important, même si ils écrivent sur les indigents, les moroses, les opprimés, les méchants, le style prime pour ces écrivains, Hervé.
Ah, complètement. Je pense que c'est ça qui est très fort. C'est pareil, de toute façon, Eric Miles Williamson, il parle de quelque chose, même si maintenant il est professeur de lettres et il est un peu à l'abri quand même de toute cette misère, mais il parle de lui, de choses qu'il a connues, de sa propre expérience, mais en même temps, tout cela est mis en fiction. Il y a c'est transcendé d'une certaine manière, et effectivement pour lui le style est quelque chose de très très important, on peut aussi dire qu'il est un peu dans la lignée de quelqu'un comme Charles Bukowski, même si je crois que Williamson pense qu'il est bien meilleur que Bukowski, voilà, ça après on laisse le lecteur juger, mais en tout cas c'est un auteur absolument de premier plan. On peut rajouter aussi qu'il est sur les traces d'un autre écrivain né à Auckland et qui en a parlé, qui est Jack London, avec lequel il y a des parentés, des similitudes, également pour parler des expériences et pour l'importance que l'écriture peut donner à cela, c'est-à-dire que c'est des gens qui n'ont pas donné des documents bruts, mais justement des textes d'une grande puissance littéraire à partir de leur propre, de ce qu'ils avaient vécu. Et on peut d'ailleurs regretter, il y a un livre absolument passionnant de Eric Miles Williamson qui s'appelle Auckland, Jack London and Me, avec en plus une interprétation très personnelle et très intéressante de Jack London, une appropriation par Williamson qui n'a pas encore trouvé de traducteur ici. Voilà. J'ajouterais que c'était bien d'en parler avec Patrick Reynal, parce qu'il l'a édité, parce que Williamson lui est cher, par ses livres. Et puis il se trouve, c'était bien aussi que trois jours avant ce débat, Patrick Reynal avait publié lui-même un livre qui s'appelle Une ville en mai, qui est un roman, mais qui revient sur la ville de Nice, que Reynal, qui était le cadre des premiers romans de Patrick Reynal, qui est niçois d'origine, qui était, je crois qu'à l'époque, c'était Nice Est et Fenêtre sur Femme. Et là, dans Une ville en mai, il y a une double originalité, disons, pour aller vite, qui est que, c'est Nice au moment de la tourmente des événements de mai 68. Or, beaucoup de gens doivent ignorer qu'il s'est passé beaucoup de choses, même à Nice, en mai 68. et voilà. Et l'autre chose, c'est aussi que c'est un roman qui, de manière un peu chandlerienne, c'est-à-dire un homme revient, il est sur la trace de sa fille qui a été mêlée au mouvement, qui a disparu, il y a également des flics qui enquêtent, enfin voilà. Mais ça va nous donner aussi à voir l'envers de Nice que peu de gens connaissent, sauf les gens qui y sont allés. C'est-à-dire qu'en fait, on imagine toujours la promenade des Anglais, des choses comme ça. Et c'est aussi de nous parler de la la cité de l'Ariane, des quartiers Est, c'est-à-dire l'endroit où on a les alentours, de Nice, où on a casé le prolétariat, puis
le Auckland de Nice.
Les misérables de la région, voilà. This is the ministry of defense. Stairs and walls are all that's left. Mortar holes let through the air. Kids do the same thing. Everywhere they spray graffiti.
Écoutez Radio PFM, c'est Variations en Noir, et dans Variations en Noir, PJ Harvey, un extrait de son dernier album. PJ Harvey, peut-être une version métaréaliste rock, suite aux propos qu'on vient de tenir par rapport à Eric Miles Williamson.
Harvey, oui, il y a une assez bonne concordance.
Oui. Hein, donc, la liaison avec la deuxième partie de notre émission est très simple, puisque je suis là, j'ai sous les yeux le quatrième de couverture du numéro 124 de la revue 813, quatrième de couverture avec l'affiche du festival du Goéland masqué, une affiche où on sent effectivement le mariage entre la littérature et le rock. Alors donc Hervé, numéro 124, tout frais, tout chaud, hein, et moi je l'ai reçu hier, donc ça vient ça vient de sortir, et un numéro consacré en grande partie à Rivage, aux 30 ans de Rivage. On en a déjà un peu parlé, 30 ans on va dire de Rivage Noir. Rivage Thriller, ça a débuté un peu après 1986, je pense que c'est 87 peut-être, ou 88,
oui, et, c'est ça, oui.
Et donc Rivage Noir qui fait à la fois ses 30 ans et son millième numéro, qui est sorti il y a un mois ou deux. Alors bon, déjà Hervé, pourquoi donc ce choix de consacrer donc un dossier à Rivage à l'occasion de ses 30 ans?
Oui, il faut pas y voir le fait que c'est pas parce qu'une collection, hop, il y a une date qui colle, et donc par facilité on va choisir de lui dire bon anniversaire. C'est simplement quand même qu'avec 30 ans et plus de 1000 titres maintenant au catalogue, Rivage, ça a une place particulière à notre avis dans le polar, c'est-à-dire dans l'édition polar, c'est-à-dire que c'est une des dernières collections comme on l'a dit, qu'on choisissait pour elle-même. J'ai croisé au fil des années, je continue à croiser des gens pour qui, eh bien, ne serait-ce que la couverture d'un pas parce qu'elle est belle uniquement, mais la couverture d'un rivage noir et cette collection même sont une garantie de qualité. On peut plus ou moins apprécier tel ou tel titre, évidemment, selon les goûts, mais en même temps, c'est une référence et que c'est quand même une collection culte. Ça reste aujourd'hui une collection culte. Tu disais justement le numéro 1000, c'est une collection aussi qui a gardé complètement l'esprit découvreur de ses débuts, puisque le numéro 1000, c'est plutôt que de choisir un auteur, j'allais dire classique de la maison, confirmé, eh bien c'est le jeune William Boyle avec Gravesend qui fait partie de cette nouvelle génération du roman noir américain, dont c'est le premier roman publié ici, donc c'est un peu la preuve d'une vivacité. C'est aussi c'est une collection aussi à l'image complètement de ce qu'a voulu François Guérif, son créateur et son directeur. C'est-à-dire que c'est une collection qui a une politique d'auteur, ce qui est de plus en plus rare, c'est-à-dire le fait de suivre un auteur, de publier ses livres, qu'il soit plus ou moins, ou bien totalement polar, noir, policier, ou bien même qu'il s'en éloigne, mais qu'on suit des auteurs. Et je crois qu'on peut, on peut dire que c'est une maison familiale en ce sens. C'est aussi une maison pour, et puis je te rends la parole quand même, mais pour tordre le cou à quelque chose de beaucoup entendu. Il est bien évident que Rivage Noir a commencé avec des auteurs américains, avec Jim Thompson d'ailleurs, et puis après avec Westlake, a découvert Elroy, Denis Liane, a publié Tony Lerman, etc., etc. Mais c'est aussi une maison, on a dit, qui est une maison importante dans le roman noir français, puisque quand même, quand on regarde le catalogue sur 1000 titres, il y en a 200 qui sont des romans français. Et là aussi, il y a eu cette politique d'auteur qui accueille des écrivains avec toute leur diversité et leur style. On pense à Pascal Dessin, que nous connaissons bien. On pense à Jean-Hugo Pelle. On pense évidemment à Hervé Lecor, etc.
Oui, alors on va revenir sur les différents articles consacrés donc à Rivage Noir, mais d'abord quand on ouvre une revue, c'est l'édito qu'on regarde, édito signé Hervé Delouche lui-même, et une nouvelle fois un édito, j'ai envie de dire décalé par rapport au dossier, au gros morceau de la revue, un édito où il est question de je cite rapidement, de Bertrand Tavernier, de Simone de Beauvoir, de Fritz Lang, vas-y, explique-nous un petit peu cet édito, ce positionnement, en fin de compte, encore un coup de, en fait, c'est un coup de cœur, Hervé.
Oui, c'est-à-dire que c'est moi, l'édito, il est, je le signe tant que je suis président de 813, puisque c'est la tradition, et j'ai en général choisi dans l'édito, puisqu'il y a des gros articles, comme celui sur André Karoff, il y a un article sur Franck Bouys, il y a le gros dossier sur Rivage que nous avons coordonné, Gonaël Denoyer et moi, et donc à partir de là, je considère que l'édito, il peut être un moyen de parler d'autres choses que les amateurs des littératures policières n'ont pas forcément vu passer, qui peut être, comme tu ne l'ignores pas, je déteste pas les passerelles entre entre des genres, entre des collections, entre différents styles de choses. Et bah, c'est comme ça qu'on avait parlé de d'Yves Ravet la dernière fois, publié chez Minuit. Et là, il se trouve que j'avais reçu un livre de Régis Descôtes, qui par ailleurs est un écrivain de thriller, mais qui dans une collection consacrée qui s'appelle « Ceci n'est pas un fait divers » chez Grasset, avait fait un livre sur Joseph Vacher, l'éventreur, ce tueur en série, tueur de bergers de la fin du 19e, qui inspira le célèbre film de Tavernier, « Le juge et l'assassin ». Donc, c'était pour moi, j'ai trouvé que là, c'était l'occasion de reparler de cette affaire criminelle, de la littérature qu'elle a produite, de M. le Maudit et justement de ce que Simone de Beauvoir a pu en dire, de Fritz Lang et Lauzet qui en ont fait un film chacun. Voilà, c'est un peu de tirer ce film, voilà, il y a les deux, en sachant que de toute façon, c'est quand même lié, que le polar, le fait divers, le roman criminel, le roman noir, il s'inspire aussi de cette réalité, du côté toujours complexe. On peut essayer d'aller dans la tête de Joseph Vacher comme on va dans la tête du personnage principal de L'assassin qui est en moi de Jim Thompson, voilà. Ou dans Un tueur sur la route d'Elroy, etc.
Alors justement, Jim Thompson, ça nous fait revenir à Rivage Noir. C'est lui qui avait ouvert la collection. Hein,
le numéro 1, c'est avec Liberté sous condition.
Voilà, c'est Jim Thompson. Et donc, et clin d'œil, hein, tu disais que le numéro 1000 de Rivage Noir, c'était une découverte. En fin de compte, un écrivain qu'on ne connaît pas, mais pas très loin du numéro 1000. Je pense que c'est le numéro 1013. Rivage, Guérif. A décidé de publier dans une nouvelle traduction le célèbre roman de Jim Thompson qui avait fait, lui, en son temps, le numéro 1000 de la série noire. Alors à l'époque, c'était 1275 âmes.
Et, on avait perdu 5 personnages, ce qui avait donné lieu à un livre hilarant et très bien documenté de Jean-Bernard.
Oui. Et donc là, cette fois, on retrouve les cinq habitants perdus et de cette ville, donc Pottsville. Hein, et donc ça, c'est aussi un joli clin d'œil. Alors Hervé, donc plusieurs articles pour faire découvrir Rivage Noir, Rivage d'une manière générale, parce que Rivage Noir, Rivage thriller, Rivage écrit noir aussi.
Parce que Rivage Noir, de toute façon, quand je disais justement, ça permet de suivre un auteur, c'est-à-dire que même quand des livres qui ne sont pas des polars à proprement parler ont été publiés en écrit noir, par exemple, qui était une collection créée par Guérif chez Rivage, Rivage Noir permettait de les reprendre et de continuer à avoir le catalogue d'auteurs.
Même si les premières découvertes, Elroy, bien entendu, qui a permis à la collection de survivre dans un premier temps et puis d'acquérir aussi cette notoriété, sont sortis en poche, en Rivage Noir.
Lune sanglante, la trilogie qui a lancé Elroy, était sortie en poche en Rivage Noir.
Il faut quand même
le dire, à peu près la seule collection de poche qui continue à publier des inédits.
En poche,
oui. Extrêmement rare en poche, oui. Voilà.
Et donc, le problème avec ce genre de dossier, c'est que on a envie de filer dans une librairie ou chez des bouquinistes c'est pas un problème mais c'est vrai que ça donne envie de relire ou de découvrir des auteurs qu'on n'a peut-être pas lu, on est peut-être passé à côté. Donc plusieurs articles vraiment qui décrivent vraiment très bien cette cette collection, hein, Christine Ferniaud, une collection désormais culte. Un sacré travail aussi de Christophe Dupuis, la descente dans une mine d'or. On a l'impression qu'il a tout lu, lui.
Oui, c'est un lecteur absolument extraordinaire. C'est aussi pour ça qu'on lui a confié ça et qu'il est allé effectivement faire le tour de avec une subjectivité qui était bien ce qu'on lui demandait d'ailleurs. Ouais. Mais voilà, qui fait, comme tu dis, une espèce de... Enfin, ça propose une balade à travers le catalogue dans lequel il trouve quelques thématiques, des choses parfois un peu décalées et tout. Et oui, absolument.
Et donc ensuite, avec Gwenaëlle de Noyers, vous avez rencontré Émilie Saint-John-Mandel. Donc hein, vous donnez l'entretien. Hein, que...
Oui, c'était l'idée de faire parler, plutôt que de faire parler une femme récemment publiée chez Rivage, enfin qu'on a découvert il y a 4 ans, je crois, avec ouais. Dernière nuit à Montréal. Et puis voilà, c'était intéressant d'avoir son point de vue et le point de vue aussi sur le bel accueil qu'elle a eu en France et qu'elle a eu dans cette maison.
Oui, et puis surtout l'impact de la publication de ce roman chez Rivage, ensuite aux États-Unis, au Canada.
C'est intéressant. Ça n'était pas la première fois, mais c'est intéressant, c'est-à-dire comment le fait, en gros, les choses commencent avec la publication ici et la publication chez Rivage, qui est quand même une maison qui est regardée, le travail de Guérif a été d'ailleurs déjà salué outre-Atlantique et regardé, et comment après, ça a un effet boomerang, disons. Voilà.
Alors ensuite, il y a un entretien avec Hervé Lecor qui est intéressant aussi, parce que lui, il a commencé à la série noire où ça ne marchait pas du tout, et c'est son arrivée. Alors il faut dire que le roman qu'il a amené à Rivage est très fort, mais c'est à partir du moment où il est arrivé chez Rivage qu'il a connu le succès. C'est un petit peu le lien, il symbolise le passage de relais, j'ai envie de dire, peut-être entre les deux collections. Donc beaucoup de choses. Il y a aussi un article.
J'aime beaucoup parce qu'il dit avec une extrême sincérité qu'il y a trouvé exigence, respect et amitié, ce qu'il n'avait pas connu jusque-là. Et je trouve que ce sont des mots extrêmement justes que dit Hervé Lecor. Oui.
Alors François Angelier, qui est célèbre animateur, producteur de l'émission Mauvais Genre. Alors lui, il écrit un article Auberge des naufragés qu'il faut relire 3 ou 4 fois. Hein. Bon, mais c'est très intéressant.
François, qui est toujours quelqu'un d'assez pris, mais il tenait absolument à faire il était très heureux de faire dans 813 un coup de cœur, il voulait faire quelque chose. Christine Ferniaud a fait un article qui raconte très bien, en plus elle suit depuis sa création l'aventure de Rivage Noir et les travaux éditoriaux, le parcours éditorial de François Guérif, et elle a fait un article qui je crois résume très bien la chose. Et Angelier, lui, a fait un coup de cœur personnel.
Il faut le lire. Et donc il écrit: Rivage est sans doute, comme Modiano le disait du sanatorium de Davos, un des derniers asiles de nuit de la conscience occidentale. Bon, je pense que ça résume tout. Donc Hervé, beaucoup de choses dans cette revue, dans ce dossier consacré à 30 ans de Rivage Noir. Il y a aussi un poisson d'avril dans ce numéro, mais bon, on n'en dira pas plus, il faudra aller le voir.
Il y a un quiz fait par auquel ont participé toute une série d'auteurs Rivage.
Plein de bonnes choses, mais ça, on en reparlera à l'occasion de réviser ces classiques. Oui. Hein, on anticipe un petit peu sur notre prochaine émission, l'émission du mois de juin, où on parlera de ces classiques qui sont réédités, notamment chez Rivage Noir, mais dans d'autres collections. Donc un article aussi avec un très bon titre, Fond de terroir, consacré à Franck Buisse, on en a parlé ici même. Donc plein vraiment de bonnes choses, et puis les rubriques actuelles. Donc c'est le dernier numéro de la revue 813, Les Amis des littératures policières, numéro 124, qu'on se procure sur commande ou dans certaines librairies, Hervé.
Oui, et puis il suffit d'aller de taper blog 813 et sinon il y a absolument tous les renseignements pour se procurer la revue ou nous contacter. Oui.
Alors, c'était Variation en noir sur Radio PFM dans Variation, le dernier vendredi du mois, une émission réalisée en collaboration avec 813, l'association des amis des littératures policières, en particulier avec Hervé Delouche. Merci à Bernard de nous accueillir toujours aussi amicalement dans son émission. Hervé, au revoir.
Eh bien, au revoir Guy, au revoir Bernard, et puis bonne lecture à tous.
Voilà, et rendez-vous, et pourquoi pas en direct dans nos studios dans un mois, Hervé.
On va essayer.
Voilà, pour de nouvelles variations en noir. Très bonne lecture en noir à toutes et à tous.